Maison des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une rencontre exceptionnelle placée sous le signe d'Homère, de la figure du père, à moins que ce ne soit celle du fils, et de la mère Égée, avec l'un des écrivains les plus stimulants qui soit, Daniel Mendelssohn. Né en 1960, cette figure de la vie intellectuelle américaine, helléniste, ancien professeur à Princeton, spécialiste de l'Antiquité, contributeur au New Yorker et à la New York Review of Books, avait été remarqué à l'époque par les Français à l'occasion de son remarquable livre « Les Disparus ». Il y racontait l'odyssée dans laquelle il s'était lancé pour retrouver la trace de 6 membres de sa famille tués par les nazis pendant la guerre. Entre documents d'archives, aveux intimes et véritables enquêtes sur le terrain, ce formidable récit remportait le National Book Critics Circle Award et en France, en 2007, le prix Médicis étranger. Le voilà qui revient avec un nouveau livre, une nouvelle odyssée. Ça s'appelle d'ailleurs « Une odyssée, un père, un fils, une épopée ». C'est traduit de l'américain par Clotilde Meyer et Isabelle Taudière. C'est publié chez Flammarion et c'est absolument remarquable. Bonjour Daniel Mendelssohn.
Bonjour.
Alors, je suis vraiment très heureux de vous accueillir parce que votre livre a été l'une de mes plus belles lectures depuis bien longtemps. Les auditeurs, je le disais, vous connaissent à travers Les Disparus. C'était l'enquête que vous meniez sur votre famille disparue au cours de ce qu'on a appelé la Shoah par balle. Mm-hmm. C'était en Galicie, donc l'actuelle Ukraine. Ouais. Une odyssée, un père, un fils, une épopée. C'est un livre sur une autre figure de votre famille, sur votre père, Jay, qui, à 81 ans, vous demande un jour la permission de suivre le séminaire que vous donniez à Bard College, donc dans l'État de New York, permission que vous lui accordez, et qui va être suivi d'un voyage que vous faites ensemble, père et fils, sur les traces d'Ulysse en Méditerranée. Alors c'est un voyage qui vous donne l'occasion de plonger à la fois dans votre enfance et dans la vie de ce père, et dans l'Odyssée d'Homère, dont vous nous révélez tous les secrets, ou presque, et qui sert de matrice à un livre qui est à la fois très hybride, très beau, qui est à la fois le portrait d'un père et le portrait d'une œuvre, les deux étant réunis par l'amour que vous portez à l'homme autant qu'à l'œuvre, dont vous nous dites ceci, et on commencera par là. Si l'Odyssée est bien une histoire de mari et de femme, cette épopée est tout autant, sinon plus, une histoire de père et de fils. On se serait donc, Daniel Mendelssohn, trompé depuis si longtemps, en mettant au premier plan l'histoire d'Ulysse et de Pénélope, alors que c'est celle d'Ulysse et de Télémaque qui compte.
Yes. Well, I think many people, even people who
personnes,
read the Odyssey,
même des gens qui n'ont pas lu l'Odyssée,
understand or have some
comprennent ou ont un sentiment qu'il s'agit d'une histoire d'un homme qui tente de retourner vers sa femme.
But the fact is that partly because my
Mais
father
le fait est que parce que mon père était présent dans la classe pendant 16 semaines d'affilée,
I was made aware of the fact that
je me suis rendu compte du fait que encore plus que cela, c'est l'histoire d'un père et d'un fils. Et la présence de mon père m'a fait voir des choses dans le texte que j'avais compris intellectuellement, mais que je n'avais pas pris complètement conscience de cela. La structure de l'Odyssée montre l'importance de la relation du thème père-fils au-delà de la relation mari-épouse, parce que les gens pensent que le sommet de l'Odyssée, c'est la réunion entre Ulysse et Pénélope. Mais en fait, la réunion finale qui se produit une fois que Ulysse revient à Ithaque, c'est avec son père. Et donc, il est réuni avec sa femme, ok, tout le monde aime bien cette partie-là, mais la partie finale, c'est qu'il cherche son vieux père et il est réuni avec lui. Et donc, le véritable sommet, c'est la réunion père-fils. Et pas beaucoup de gens en sont conscients.
Exactement. Est-ce que vous diriez, Daniel Mendelssohn, que ce livre est aussi une quête sur un disparu, puisque c'était le titre en français de Lost, auquel il fallait rendre hommage, rendre vie, peut-être, votre père, qui lui aussi, alors c'est paradoxal, est disparu parce que nous assistons, alors je ne spoil rien, mais dans ce livre, vous le dites d'ailleurs que c'était un an avant sa mort, on va assister à sa mort, dans les dernières pages qui sont absolument somptueuses, et aussi à son immortalisation par le biais du livre, en fait, tout cela à la fois. C'était aussi un nouveau disparu qu'il fallait faire renaître.
It's... You know, it's always so much fun to talk to writers because
c'est toujours très amusant de parler à des écrivains parce que les écrivains notent des choses qui touchent à l'écriture.
And yes, I think, you know, when you're writing a book, you're not analyzing your own
livre, on n'analyse pas sa propre œuvre sans cesse. On ne travaille pas en tant que critique littéraire sans ça. Non, parce que vous savez que c'est ce que je fais aussi, hein, de temps en temps.
Exactement. Vous êtes aussi connu, pardon, je dis ça pour nos auditeurs. Et d'ailleurs, je salue mon partenaire Michel Zlotowski qui vous interprète. Vous avez reconnu sa voix. Mais vous êtes aussi connu pour vos travaux critiques, notamment de cinéma. Et vous êtes excellent quand vous parlez du film 3 avec Brad Pitt ou de 300 de Zack Snyder. Il y a aussi un côté pop, hein, chez Daniel Mendelsohn.
Yeah, sure. Mais...
Bien sûr, il faut se souvenir que lorsqu'on étudie la littérature grecque, la plupart de ce qu'on étudie, c'est de la littérature populaire et pas de la haute littérature intello.
Donc,
ce dont je parlais précédemment, c'est que
quand
on commence à écrire et réfléchir à des mémoires, non pas en tant que critique littéraire, et maintenant que ce nouveau livre est terminé, pour revenir à ce que vous disiez précédemment, je suis très au fait que ce nouveau livre réplique des aspects des disparus, mais aussi des choses en inversion. Donc on pourrait dire que les deux livres sont une recherche. C'est un récit de recherche. Je cherche quelqu'un que je ne connaissais pas. Bien sûr, dans le cas des disparus, c'était vraiment des gens que je ne connaissais pas, à l'évidence. Et dans le cas de mon père, c'était une métaphore. Je ne le connaissais pas parce que nous avions eu une période de séparation, nous avions des tempéraments différents, je ne l'ai pas véritablement apprécié avant d'être adulte. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une structure semblable. Et la structure, j'attends qu'un critique le remarque, mais la structure est exactement la même. Il commence avec des parties qui couvrent une période extrêmement longue dans le temps, depuis les années 60 jusqu'au présent, donc pour, si vous voulez, mettre un décor. Et puis la partie suivante, c'est une période de temps plus courte, quelques années, et puis la période suivante, c'est quelques mois, et la section finale est nommée après un jour unique. Le titre, c'est un jour unique, parce qu'on est comme dans un entonnoir, vous savez, il y a ce processus de rétrécissement du temps. Et d'un autre côté, je dirais que ce dernier livre inverse la direction des disparus. Les disparus vont vers l'extérieur, je vais vers le monde, je vais vers beaucoup de continents, 4 continents, 12 pays, je pense. Je sors de mon monde new-yorkais vers le monde et l'histoire mondiale, alors que dans ce livre-là, c'est une recherche intérieure. Je vais de plus en plus profondément dans la famille, à l'intérieur des relations intimes avec le père, et je réfléchis plus intensément et du point de vue d'un adulte sur le mariage de mes parents. Donc, ça inverse les directions.
Un jour ou l'autre, écrivez-vous, Daniel Mendelsohn, on doit régler ses comptes avec les morts avant de reprendre le cours de sa vie. Tout livre important, vous pensez, important pour l'auteur en tout cas, serait une forme de catabase, comme on le disait dans l'Antiquité, c'est-à-dire une descente en soi, ou en tout cas une descente à la rencontre des morts.
Oui, absolument.
Vous pouvez aussi un peu en français. Hein. Vous êtes libre.
You know, it's funny, when Les Disparus came
c'est
out
drôle
in the United
parce que
States,
quand Les Disparus ont été publiés aux États-Unis,
so j'ai eu
beaucoup de chance, les critiques étaient bonnes, sympas, intelligentes. Il y a eu une critique par un critique classique, célèbre, et c'est lui qui a remarqué ce que j'espérais, c'est que la structure des disparus était une catabase. En d'autres mots, le héros d'une épopée, de toute épopée, quasiment, a un moment où il doit faire face à la mort. Littéralement, en allant dans la terre des morts. Et donc, il y a une certaine valeur symbolique qui est que quelqu'un doit faire face au passé et, comme on dirait, on doit enterrer le passé pour pouvoir revenir au temps présent. Et à l'évidence, c'est ce que je faisais avec les disparus. Mais seulement un classiciste aurait pu le remarquer. Et dans ce livre-là, celui-ci, je veux dire, c'est à un niveau extrêmement conscient où je lutte pour comprendre le passé de mon père, pourquoi il était tel qu'il était, pour pouvoir avoir des relations avec lui.
Alors je rappelle quand même pour les auditeurs le contexte de ce livre. Non seulement ce père, votre père Daniel Mendelssohn, va assister à votre séminaire sur l'Odyssée, donc parmi des jeunes gens de 18 à 20 ans, mais en plus, il perturbe le cours. Et je vous cite, à un moment, il est question de l'héroïsme d'Ulysse, et il dit, ce père, Jay Mendelssohn, « Je ne vois vraiment pas en quoi ça fait de lui un héros, vous l'écrivez comme ça, grinçait-il maintenant. Il trompe sa femme, Ulysse, il couche avec Calypso, il perd tous ses hommes, donc, comme général, il est minable. Il est déprimé, il pleurniche, il reste assis là, à vouloir mourir. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas finalement un bon sens chez votre père? Est-ce qu'il a vraiment tort? Au fond, Ulysse n'est pas si exemplaire. Et d'ailleurs, Dante, dans l'Enfer, le range parmi les conseillers fourbes. Ce n'est pas un héros, Ulysse.
C'est
une question intéressante.
Une des
choses que j'aime souligner lorsque j'enseigne ce texte, capacité que je tente de donner, de transférer à mes étudiants, c'est la capacité de comprendre que les héros ne doivent pas être parfaits pour être des héros, et que la complexité d'un caractère et la complexité d'un texte, c'est ça qui le rend grand. Et certainement, dans le cas d'Ulysse, on parle d'un héros qui a des qualités merveilleuses, extraordinaires, il est tellement attirant, tellement charmant, et en fait, vous le savez parce que vous avez lu Les Disparus. Il ressemble beaucoup à mon grand-père.
De l'autre côté, exactement. Hein.
Du côté de ma mère.
C'est-à-dire le beau-père de mon père. Right? Okay. So, my grandfather,
qui est le héros des Disparus, est un raconteur, un magicien, un petit peu bizarre, il raconte des mensonges, il manipule les gens par ses récits, et c'est ce que fait Ulysse. Et je crois que Ulysse a un côté sombre qui doit être reconnu. Donc en fait, mon père n'était pas quelqu'un de littéraire, c'était un scientifique. Il était vraiment quelqu'un de cultivé, mais de façon intuitive. Et des choses, il a découvert des choses que les philologues classiques ont toujours compris. C'était que Ulysse avait un aspect sombre dont il fallait s'occuper.
C'est même un mythomane d'ailleurs, puisque il y a un moment une scène extrêmement amusante, puisque il y a ce père qui est presque l'agitateur, hein, qui agite, qui stimule les jeunes étudiants, qui se met à parler comme eux. Il parle de loser. Ulysse est un loser.
Ouais.
Et un moment, vous racontez qu'une des élèves, je crois que c'est Trisha, ou je crois que c'est elle, dont vous soulignez, voilà, Trisha avec ses boucles, puisque vous amusez aussi à faire des épithètes homériques,
ouais.
Trisha aux longues boucles,
ouais.
Qui dit, mais au fond, on ne sait pas si c'est vrai, quoi. Ulysse est chez les Phéaciens, il raconte son voyage, mais personne n'est là pour en vérifier l'exactitude, et votre père opine, effectivement, je suis d'accord, c'est un loser et peut-être un mythomane.
Yeah, absolutely, and in fact,
tout à fait.
Et
un des sommets du drame de la classe, c'est lorsque les étudiants font une petite révolution contre moi parce qu'ils avaient cette idée. Quelle est la partie la plus célèbre de l'Odyssée? C'est les aventures d'Ulysse. Les cyclopes, les sirènes. Mais en fait, la seule manière pour nous de connaître ces épisodes, c'est parce que Ulysse les récite lors d'un grand banquet. Et il n'y a aucune corroboration de leur véracité. Lorsque le poète nous les raconte, on sait bien que le poète les a entendus des muses. Mais je me suis dit, mais il n'y a aucune façon de le prouver. Et beaucoup des épisodes qu'il raconte ont une ressemblance étrange avec ce que le poète a dit. Et c'est comme tout les bons menteurs, ils commencent par un petit élément de vérité qu'ils développent. Et donc, les étudiants avaient raison, ou du moins, ils pouvaient avoir raison. Et j'ai résisté très fortement à cette interprétation. Mais maintenant, j'en suis plus tellement sûr.
Est-ce que vous imaginiez que la présence de ce père allait provoquer de telles étincelles? Et imaginiez-vous que lui savait qu'il venait là pour provoquer des étincelles avec eux?
I don't know about that.
Je ne peux pas répondre à cette question. Mais
he by nature
par nature, certainement, c'était quelqu'un de sceptique.
That was his scientific side.
C'était son côté scientifique.
And he was, I think, also
et
by
je pense
nature
que par nature, il était aussi du côté de l'opposition. Il ne fallait certainement pas rentrer dans une discussion avec mon père parce qu'il se comportait comme un toutou avec son os.
Je précise ma question. Il s'agit de l'Odyssée. Il allait sur votre territoire, exactement, puisque lui était plutôt latiniste. Il était mathématicien,
yes.
Mais il s'était mis en tête de traduire Ovide. Il va vous chercher sur l'Odyssée. Est-ce que vous comprenez maintenant, vous le dites un peu dans le livre, mais pourquoi il avait choisi ce texte-ci, ce séminaire sur l'Odyssée, précisément?
Yes, I think I see what you're saying.
Oui, je vois ce que vous voulez dire.
You know, you could also be a psychotherapist as well.
Vous pourriez, mon cher, être aussi thérapeute, non seulement écrivain. Parce que il m'apparaît maintenant qu'il choisissait de me battre sur mon propre terrain, de montrer qui était le patron. Même sur mon propre sujet, il allait me montrer qui était le patron.
Non, mais je dis ça parce que vous soulignez depuis le début l'Odyssée. C'est pas qu'on se soit trompé, hein. Les deux, évidemment. Il y a Pénélope et Ulysse. Il y a l'histoire de la réunion du couple, des prétendants. Mm-hmm. Mais il y a le fils. Il y a Télémaque. Et d'ailleurs, on parle aussi de Télémachie. Il y a une partie de l'Odyssée. Et on commence, d'ailleurs. L'Odyssée commence par la présence de Télémaque qui va aller chercher son père. Et au fond, je me suis demandé, est-ce que Télémaque, c'est vous? Ou est-ce que Télémaque, c'est Jay Mendelssohn, votre père, qui veut se faire reconnaître? Comme Ulysse a voulu se faire reconnaître aussi.
Well, certainly.
Par vous, par le fils qu'il admire aussi.
Well, I think, you know, I'm going to be evasive in a very interesting way.
Je vais tourner un petit peu autour du pot.
So I think.
Donc.
You know, everybody is a Telemachus with respect
to
his parents.
Tout le monde est un Télémaque par rapport à son père, ses parents. On est toujours un petit peu, dans la confusion vis-à-vis de ses parents. Quand j'ai commencé ce texte, d'abord la classe, la croisière, je voulais mieux connaître mon père. Mais je dois dire que votre observation est très intéressante. Lui aussi voulait me connaître mieux.
You know, as the searching person, one is Télémaque.
La personne à la recherche, c'est Télémaque, certainement.
And remember that the
et souvenez-vous que la structure de l'Odyssée suggère que nous sommes tous, même à l'âge mûr, on est des enfants autant que des parents. On ne cesse jamais d'être l'enfant de quelqu'un, même lorsque les parents sont morts. Et même après leur mort, nous voulons connaître nos parents.
Et c'est ça vraiment que j'aime dans votre livre, Daniel Mendelssohn, cette dimension-là, et que l'Antiquité avait parfaitement comprise, c'est le fait que les choses ne sont pas binaires,
non.
0 ou 1, et que c'est plein d'enseignements pour aujourd'hui. On y reviendra, on va parler aussi d'identité, parce que l'Odyssée, et ce texte aussi, parle de l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est que d'être homosexuel, hétérosexuel, antiquisant de son temps? On va parler de tout ça. Mais il y a une chose qui me fascine dans votre texte, qui m'a fait jeter aussi une hypothèse, peut-être un peu fantastique, un peu surréaliste, de l'ordre du hasard objectif. Est-ce qu'il y aurait certains grands textes, au fond, anciens textes, suffisamment puissants, suffisamment magnétiques, pour provoquer ces rencontres entre les hommes par-delà les siècles? Ou est-ce que c'est nous qui nous projetons en eux? Je vous dis ça parce qu'il y a un élément du livre où je me suis dit, non, là c'est pas possible. Il exagère, Daniel Mendelssohn.
Jamais.
Jamais. Alors on va voir.
Je suis écrivain.
Vous êtes écrivain, précisément. Polytropos, voilà, aux mille tours, comme l'était Ulysse. Il y a plein d'indices troublants qui jettent des ponts entre ce que vous vivez avec votre père et ce qu'Ulysse a vécu. Sur le voyage par cercle, par exemple, puisque l'Odyssée se raconte par cercle, en fait. C'est pas une narration linéaire.
Non, non, non.
Vous rappelez un voyage que vous avez fait petit avec votre père, où il était question de voyager dans le ciel par cercle parce qu'on ne pouvait pas atterrir. Et puis, il y a le cas du lit. Et là, je vais vous laisser expliquer. Le lys est très important dans l'Odyssée, mais vous allez nous dire le lit d'Ulysse, qui est même un signe de reconnaissance, et le lit sur lequel votre père dort quand il reste chez vous après les cours, pour un helléniste, c'est tellement surchargé d'Homère que cela devient suspect. Il faut que vous expliquiez.
No, but it's
et que vous nous racontiez.
It's true.
Non, so c'est
my
vrai.
Father, when I was a child,
quand j'étais enfant,
he built these
mon
two
père
beds,
a construit
me,
ces deux lits, l'un pour moi, l'autre pour mon frère aîné. On était dans la même
and
chambre.
As you know, as
et comme vous le
knows,
savez, comme
Odyssey,
toute personne qui a lu l'Odyssée le sait, la construction d'un lit est une clé pour le texte entier. Ce qui permet à Pénélope de reconnaître Ulysse à la fin de l'histoire, c'est le secret partagé que c'est Ulysse qui avait construit ce lit conjugal. Mais en fait, c'est mon père qui avait construit ces lits-là pour nous. Donc on peut dire, bon, allez, c'est trop beau pour être vrai.
Parlez-nous du lit.
Mais en tant qu'écrivain, vous prenez ce que la vie vous donne et vous le formez d'une certaine manière pour que ça ait l'air d'être vrai.
Mais parlez-nous du lit, justement, de ce fameux lit qui se trouve être autre chose qu'un lit dans
well, the,
une Odyssée.
He made the bed
il
out
a construit
of these
le lit
wooden doors.
Avec ses portes préfabriquées.
You know, my father, in some level of his personality,
mon
must
père,
also
à un certain niveau de sa personnalité, devait être aussi un écrivain quelque part, parce qu'on ne peut pas construire un lit qui soit vraiment, qu'il ait choisi des portes, une porte c'est quelque chose qu'on ouvre, qu'on ferme, c'est vraiment ça, ça désigne sa propre valeur symbolique. Mais c'est la vérité. Vous pouvez appeler mon frère, hein, il va vous le dire. Il est en Californie et vous pouvez lui demander si je raconte des blagues. Mais non, ce que je fais, moi, en tant qu'écrivain de choses qui ne sont pas des romans, c'est de prendre ce que la vie me donne et de construire ma narration. Et donc ces parallèles deviennent utiles. Quelqu'un d'autre pourrait avoir un lit que leur père leur a fait à partir d'une porte. Et peut-être qu'il n'a jamais lu Homère, et ça ne voudra rien dire pour eux.
C'est parce que nous nous projetons, en fait, dans ce texte. Ce n'est pas le texte qui, finalement, aimante par-delà les siècles ce genre de réalité quotidienne.
Well, I think it's a little bit of both.
Je crois que c'est un peu des deux.
It's a tango.
C'est un tango.
Takes two to dance,
vous savez, il faut être deux pour danser, hein.
Bien, on va continuer à danser ensemble, Daniel Mendelsohn. Enfin, on est trois avec Michel Zotowski. On écoute d'abord votre premier choix musical. Vous avez choisi le Quatuor à cordes en La mineur, opus 132, troisième mouvement de Beethoven. On écoute.
Vous écoutez France Culture, le temps des écrivains, par Christophe Onodibio.
Beethoven, quatuor à cordes en la mineur, opus 132, c'est le troisième mouvement, et c'est le choix de Daniel Mendelssohn qui publie Une Odyssée, un père, un fils, une épopée. C'est chez Flammarion, c'est traduit de l'américain par Clotilde Meyer et Isabelle Taudière. Daniel Mendelssohn, pourquoi ce choix musical ?
Well, I thought about this. My father was
J'ai beaucoup pensé, mon père était malade pendant trois mois avant de mourir. Il a eu un AVC en avril et il est resté trois mois à l'hôpital. Il s'en est quasiment sorti. C'est quelqu'un de très fort. Et ce mouvement du quartet de Beethoven a un titre. Et c'est un chant sacré de choses de quelqu'un qui a été malade et qui a guéri. Et je l'ai fait passer beaucoup, j'ai beaucoup réfléchi pendant le mois où mon père était malade, et c'est aussi pendant que Beethoven a été très malade, il a récupéré. J'y ai réfléchi, j'y ai pensé. Ce que ça signifie d'être malade au point d'en mourir. Et à quel point ça doit être de guérir, ce qui n'a pas été le cas de mon père.
Alors ce père, c'est le héros de votre livre, Daniel Mendelssohn, ce beau livre, Une Odyssée, un père, un fils, une épopée, qui est un texte hybride, en fait un portrait de ce père à travers... J'allais dire un portrait de l'Odyssée. Il est question de votre père qui, un an avant sa mort, a voulu assister à votre séminaire sur l'Odyssée, au Bard College, dans l'État de New York. Et c'est un cours auquel il va assister et qui va précéder un voyage physique, hein, cette fois-ci, sur les terres d'Ulysse, puisque vous partez en croisière découvrir les endroits où Ulysse aurait croisé les sirènes ou les lotophages, sans aller jusqu'à Ithaque, on y reviendra. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, de si puissant, ces grands textes, ces grands poèmes attribués à Homère? Pourquoi pensez-vous qu'ils nous parlent autant aujourd'hui? Pourquoi sont-ils aussi importants? Pourquoi résonnent-ils encore?
Well, I mean, these... Texts say very fundamental things about
Ces textes racontent des choses extrêmement fondamentales sur l'expérience humaine.
In a profound and also a stylish and
d'une façon profonde,
narratively exciting
et dans
way,
un récit extrêmement stylisé.
At the beginning of our tradition,
ils
and
sont
so they
au début
have a kind
de nos
authority.
Traditions, ils ont une sorte d'autorité.
But, you know, the secret weapon
Mais
of
l'arme secrète
classical
des gens
literature
qui travaillent sur la littérature classique,
is that human nature has
c'est que la nature
changed.
Humaine n'a jamais changé.
You know, we have better gadgets, we have
Nous
iPhones,
avons des meilleurs gadgets, on a des têtes nucléaires,
you know,
on a des smartphones, on peut faire une réservation pour un vol aérien à partir de votre ordinateur, mais fondamentalement, rien n'a changé depuis le début des temps. Et lorsque on lit ces textes anciens, on sent qu'ils décrivent en fait nos propres vies. Même s'ils sont les produits de cultures extrêmement différentes d'une certaine manière, mais ils semblent décrire quelque chose qui nous est familier et ça nous rassure en fait que rien n'a changé, que l'on peut se reconnaître dans ce miroir légèrement embrumé.
And it's maybe smoky, but
et
it's a
c'est peut-être un peu embrumé, mais c'est un miroir. Et on voit que la nature humaine est constante. C'est une bonne et une mauvaise chose. Parce que la nature humaine a des aspects assez horribles.
And I just think that's exciting.
Et je pense que c'est vraiment enthousiasmant. C'est très enthousiasmant.
Et
c'est le meilleur argument pour continuer de lire les classiques et peut-être d'en tirer certaines leçons.
Mostly not.
Mais pour la plupart du temps, non. Mais enfin, on peut toujours espérer.
Ce qui est très intéressant, parce que c'est aussi un livre qui est plein d'érudition, c'est qu'on ce débat dont on pense qu'il n'est que contemporain, à quoi bon les grands textes classiques dans le monde des iPhones, au fond, il a déjà eu lieu. Vous citez Friedrich August Wolff, donc qui est un un philologue, c'est l'inventeur de la philologie, donc au XVIIIe siècle, en Allemagne, qui en fait s'oppose aux théories de John Locke en Angleterre et Jean-Jacques Rousseau en France, ouais. Et qui répond à la question que pouvait bien apporter l'étude des classiques de l'Antiquité aux jeunes esprits des temps modernes. Locke, comme beaucoup de parents d'aujourd'hui, se gaussait que gagnerait un ouvrier à savoir le latin, à quoi Wolf répliquait la connaissance de la nature humaine. Donc, pour vous, la nature humaine n'a pas changé, au fond, depuis l'époque homérique.
Non,
ça semble évident. Et tout ce qu'on doit faire, c'est de lire les anciens historiens. Quand vous lisez Hérodote, Thucydide, c'est très clair que politiquement, sur le plan militaire, les instincts qui nous mènent à la guerre, le cynisme dans un pays en guerre, les prétextes pour faire la guerre, rien n'a changé. C'est un petit peu déprimant, mais c'est la vérité. On peut pas y échapper.
Alors, quelque chose qui sera peut-être déprimant, mais comme on a un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'Odyssée, je vous pose la question. L'identité d'Homère, finalement, identité composite ou on a même dit qu'Homère pouvait être une femme, en fait, et Nausicaa serait son autoportrait.
Well, you know, there was in the 19th century.
Au 19e siècle, il y avait un livre. Je crois que c'était l'auteur de l'Odyssée. Parce qu'il y avait cette idée que l'Odyssée parle de tellement de personnages féminins qui étaient tellement forts, tellement fascinants, que ça a dû être écrit par une femme. Et c'est une idée très attirante, probablement sans aucune base, aucun fondement. Mais la probabilité est que ces poèmes ont été assemblés par des poèmes antérieurs, par un maître qui était lui-même un grand artiste et qui ont formé ces premières épopées et qui en ont fait un produit fini, qui est un véritable produit de grand art.
Je voudrais qu'on parle de la façon dont se structure ce livre, en fait. Vous vous livrez à une interprétation intéressante autour du terme polytropos, qui est en fait l'épithète homérique qui correspond, il en a plusieurs, mais qui correspond à Ulysse, c'est-à-dire Ulysse aux mille tours, aux mille ruses, mais qui, selon vous, se prêterait aussi à la façon dont ce poème se raconte. Il se raconterait par cercle. Aristote, dans la Poétique, recommandait de ne jamais conduire un récit de A à Z, linéairement. Est-ce que là encore, les Grecs ont de bonnes leçons à nous donner pour écrire de bons récits qui nous ennuient le moins possible avec des tas de sous-histoires qui s'embranchent?
Well, I think, you know, Aristotle has a lot of very smart things to say.
Aristote a beaucoup de choses intelligentes à raconter. Moi, je l'utilise beaucoup quand j'écris sur le cinéma. Parce qu'il essaie de réfléchir à pourquoi telle intrigue fonctionne et l'autre ne fonctionne pas.
Certainly, this idea of ring composition,
il a souvent raison.
Un narratif circulaire,
pourquoi est-ce que ça fonctionne? C'est quelque chose qu'Aristote, dont il parlait, et il utilise Homère pour cela. Et je dois vous raconter une histoire. Ne la répétez pas en anglais parce que j'aimerais pas que mes copains new-yorkais la connaissent. Mais quand j'ai écrit tout d'abord ce texte, je commettais l'erreur contre laquelle s'opposait Aristote. J'avais tout écrit dans le bon ordre. L'introduction, la classe, la croisière, l'hôpital, la mort. Et ça fonctionnait pas. Et puis, je me suis frappé la tête et je me dis, mais il faut réfléchir comme Homère. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette la mort, l'hôpital, le voyage, qui sortent de la classe dans des cercles en spirale. Et une fois que j'ai compris ça, je tenais le bon bout. Aristote a raison. Il ne faut pas le dire à vos enfants.
On va parler un petit peu de l'identité avec vous, Daniel Mendelssohn, parce que, à vous lire, toujours on a l'impression que votre récit personnel, que ça soit Les Disparus, d'ailleurs, ou L'étreinte fugitive, qui est un autre de votre livre, ou celui-ci, Une odyssée, un père, un fils, une épopée, que ces récits personnels, au fond, pour advenir pour naître, ont besoin de se confronter avec les grands récits. Alors, dans Les Trains de Fugitifs, c'était Sappho ou Catulle. Mm-hmm. Dans Les Disparus, c'était la Genèse. Ici, c'est l'Odyssée. Est-ce que, au fond, sur le plan de l'identité, il en est question dans ce livre, les textes anciens ont été aussi d'une certaine aide pour vous comprendre, pour comprendre votre identité de juif, d'homosexuel et votre construction aussi identitaire sur ce plan-là?
Well, I think, I mean, the reason that these,
la raison pour laquelle ces commentaires textuels sont présents dans mes livres, c'est parce qu'ils sont, ils me sont présents à l'esprit.
I'm not making this up, you know.
Je ne raconte pas d'histoire.
They are my own lenses.
Ce sont mes propres objectifs, lentilles, pour penser aux implications du récit personnel que j'écris.
And, you know, I started to think about
J'ai commencé à y réfléchir quand j'écris mon premier livre, Les Trains de Fugitives, parce que j'écrivais ma vie en tant qu'homosexuel, mes désirs, la volonté d'avoir des enfants, et je me suis dit, j'aimerais bien décrire ce passage comme dans Ovid, quand il parle de Narcisse et de Echo.
The fact is, it's such a good metaphor for
c'est une
desire, certain kinds of
métaphore
desire.
Tellement belle pour une sorte de désir, et j'ai appelé mon agent,
said, you know,
je lui ai dit, j'aimerais bien écrire quelque chose sur Ovid, est-ce que je peux faire ça? Elle a dit, c'est ton bouquin, fais ce que tu veux. Et c'est comme ça que j'ai écrit tout ce truc des commentaires textuels, parce que c'est ce qui clarifie le monde pour moi. Et si on le dit de la bonne manière, si on le rend vivant, intéressant, ce matériel philologique, eh bien, pourquoi est-ce que ça ne serait pas aussi intéressant pour le lecteur que ça l'est pour moi?
Particulièrement dans le cas de l'Odyssée, puisque la grande question de l'Odyssée, vous la formulez très bien, c'est la tension entre anonymat et identité. Mmh. Tout le monde a à l'esprit « mon nom est personne », la phrase qu'Ulysse sort au Cyclope. Alors, d'habitude, on se dit, il dit ça pour ne pas dire son nom, sauf que c'est beaucoup plus intéressant que ça, puisque en grec, « outis » pour dire « personne » est un redoublement de métis, qui veut dire la ruse. Enfin, c'est quand même le plus grand texte, l'Odyssée, sur la question identitaire. Est-ce qu'on est un chef, un père, un fils, on en a parlé tout à l'heure, un amant, un mari? Est-ce qu'on peut coucher à la fois avec Calypso et être fidèle, finalement, à Pénélope? Est-ce que ça vous a permis aussi, vous, d'être plus à l'aise avec la sexualité, avec ces questions, quand vous en parlez dans le livre, quand vous étiez jeune homme, tâtonnant dans cette sexualité, finalement, est-ce que l'une des grandes leçons des Grecs et de l'Odyssée, c'est pas de simplifier aussi ces questions-là, de montrer que tout est ouvert et tout est possible?
Yes. Well, I would say that the great lesson
Je dirais que la grande leçon est de compliquer les choses sur l'attraction de la complexité. Et comme chacun de nous le sait, peu importe si vous êtes gay ou hétéro, je ne pense pas que ça fasse une différence, mais on a tous des identités multiples. On vit tous des vies à plusieurs facettes. On est tous une personne avec un amant, avec un époux ou une épouse, quelqu'un d'autre avec nos amis, quelqu'un d'autre avec nos enfants, quelqu'un d'autre quand on voyage, quelqu'un d'autre encore quand on est à la maison. Et c'est quelque chose que l'Odyssée comprend. Et il y a un argument là contre la simplification. L'erreur faite par les gens dans l'Odyssée, c'est précisément parce qu'ils simplifient alors qu'ils devraient voir la complexité. En fait, le Cyclope,
il y a eu un oracle
que le Cyclope avait reçu des années précédemment, qu'un humain viendrait et le vaincrait. Et parce que le Cyclope avait une vision très étroite, il pensait que c'est quelqu'un de très grand qui viendrait. Et le Cyclope dit, mais je pense pas, j'ai jamais cru que c'était un petit bonhomme comme ça qui pourrait me vaincre. Et l'Odyssée souligne l'importance de penser en dehors de la boîte. Dans une façon beaucoup plus complexe.
Et donc quand Homère, si c'est lui, fait dire à Ulysse « mon nom est personne », au fond, il anticipe, il comprend ça, les questions identitaires d'aujourd'hui, dans « mon nom est personne », il y a tout ça.
Yeah, I mean, this...
Oui, cet épisode, qui est un des épisodes les plus compliqués de la littérature mondiale sur l'identité, où il dit « mon nom est personne », et puis il commence cette histoire très complexe en grec. C'est une blague triple, parce que le mot en grec pour « personne », dans certaines formes, est aussi le mot qui signifie « des trucs ».
On peut le dire en grec, on peut parler un peu grec ancien.
Hein, okay, so voilà. There are two words for
donc il y a
nobody.
Deux mots pour personne.
Outis,
outis,
métis. If you're drunk, sounds a little outis, bit like Odysseus.
Quand on est un peu sous, ça ressemble à Odysseus, c'est-à-dire Ulysse.
When it means nobody,
et métis, qui signifie personne, words, sont deux mots séparés, mais et tis. Mais le mot métis signifie quelqu'un qui joue des tours et right. Quelqu'un qui est intelligent,
so,
qui est malin.
When Odysseus says
donc,
his name
quand
is
Ulysse dit
nobody,
mon nom est personne,
il
dit un mensonge de façon ostensible, parce qu'on sait que son nom est Ulysse, mais il dit aussi quelque chose de vrai, parce qu'à ce moment-là, dans sa propre histoire, il est personne. Il tente de rétablir ou d'établir sa propre identité. Personne ne sait qui il est perdu au milieu de l'océan, et puis lorsqu'il vainc le cyclope, le truc vient à sa fin, et les gens viennent « ah, voilà, il l'a frappé dans son œil unique. » Et lorsque les autres cyclopes arrivent et disent « mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Il dit « mais personne ne m'a frappé. » »« Ah bon, personne ne t'a frappé ? Ok, on rentre à la maison. » Donc voilà, et le piège se referme. C'est génial. C'est tout simplement génial. Et ça montre un autre aspect de la personnalité d'Ulysse, c'est que c'est un maître du langage et un maître des mots. C'est un héros des mots.
Un petit pas de côté, hein, quand même, du côté de l'Iliade, puisqu'on parlait des questions de sexualité. Patrocle et Achille. Est-ce que vous savez maintenant, vous qui avez exploré ces textes-là, ce que faisait, c'est une question qui a agité toute l'Antiquité. Que faisaient donc Achille et Patrocle sous leur tente, à l'abri des regards des Myrmidons? Je vous dis ça, c'est très sérieux, car Achille, dans une tragédie perdue qui s'appelait les Myrmidons,
oui,
prête ses vers à Achille. Tu n'as pas respecté l'auguste pureté de tes cuisses cruelles, malgré tous nos baisers. Et toute l'Antiquité a glosé là-dessus. Est-ce que vous avez éclairci la question, Daniel Mendelssohn, qui rit?
Je pense à ces cuisses cruelles chaque fois que je vais faire du sport. Au gymnase.
Well, it's funny because, you know,
c'est marrant parce que, vous savez, j'enseigne un séminaire sur l'Iliade, semblable à celui que je donne sur l'Odyssée. Et les élèves veulent toujours savoir s'ils étaient amants. Mais les anciens, lors des banquets, posaient la question déjà. Mais qui était dessus? Qui était celui qui était dessus? Qui est-ce qui était dessous? C'est une question qui obsède tout le monde. Mais bon, sérieusement, la seule chose qui compte, c'est que Patrocle était suffisamment important pour Achille pour que ça crée effectivement tout le dénouement de l'Iliade. C'est le résultat de l'affection tendre qu'Achille avait pour Patrocle.
Et
je ne sais pas, et je me fiche d'ailleurs de ce qu'ils faisaient dans leur chambre à coucher.
Vraiment?
Yeah.
Bah oui.
On continue avec vous, Daniel Mendelssohn, et à parler d'Homère, de votre père, du fils que vous êtes et du père aussi que vous êtes. Mendelssohn, une odyssée, un père, un fils, une épopée. On vous retrouve juste après votre deuxième choix musical, My Funny Valentine, de Richard Rodgers et Lawrence Hart, qui est chanté par votre amie Angela McCluskey. Qui est Angela McCluskey?
En fait, elle est
anglaise.
Like a lounge singer, you know, a sort of a person comme une, who sings in piano bars,
quelqu'un qui chante dans les piano bars,
dinner clubs,
and dans
has quite
les soirées privées. Elle a une bonne réputation aux États-Unis. Elle a une façon très spéciale de chanter ses chansons américaines. Thank you.
Valentine de Richard Rodgers et Lawrence Hart, chanté par Angela McCloskey. C'est votre ami Daniel Mendelssohn et c'est votre deuxième choix musical. Vous êtes dans le temps des écrivains pour Une Odyssée, un père, un fils, une épopée. C'est votre nouveau livre qui est publié chez Flammarion. Magnifique livre où il est question d'un séminaire sur l'Odyssée de votre père, Jay Mendelssohn, qui à 80 ans vous demande la permission d'assister à ce séminaire. Vous acceptez. Et cela va donner lieu à la fois quelques débats houleux sur la question, la nature héroïque d'Ulysse, et sur un voyage que vous allez faire avec ce père en Méditerranée, dans les pas d'Ulysse. Mm-hmm. Petite question, Daniel Mendelssohn, là-dessus. Est-ce que vous êtes dit, pour le livre que j'ai envie de faire, il faut que je prolonge ce séminaire par un voyage physique dans les traces d'Ulysse avec mon père, où la littérature aurait pu suffire au fond? Pourquoi il fallait faire un voyage?
Non, ce qui s'est passé, c'est que à la fin du semestre, mon ami Froma, qui était la personne qui m'a conseillé sur mon travail universitaire, grande université américaine, elle a dit, tu peux faire quelque chose avec ton père, il y a une croisière qui recrée les voyages d'Ulysse et tu dois y aller. Elle l'avait fait quelques années précédentes avec son mari. Et au début, je me suis dit, jamais. Parce que mon père avait horreur de dépenser de l'argent. Et l'idée d'une croisière de luxe en Méditerranée, c'était pas le genre de chose qui lui ferait plaisir. Mais en fait, quand je lui ai suggéré, il était très enthousiaste. Il a dit, ouais, il faut y aller. Parce qu'il aimait l'idée qu'il avait maîtrisé, comme il le pensait, l'Odyssée. Et maintenant, il voulait la mettre en action, cette Odyssée. Et donc, nous y sommes allés. J'aurais jamais fait ça moi-même. Comme tout le monde sait, enfin tous ceux qui ont lu Les Disparus, j'aime le texte beaucoup plus que je n'aime les endroits eux-mêmes. Il y a toujours cette petite déception proustienne lorsqu'on voit un endroit auquel on a pensé pendant longtemps. Moi, je ne serais jamais allé. Mais mon père était tellement enthousiaste, comment aurais-je pu lui dire non? Et non seulement voulait-il partir en croisière, il a dit, je veux la cabine la plus luxueuse, je veux un balcon. Je dis, bon, d'accord.
Est-ce que, quand vous viviez ça avec votre père, vous aviez déjà l'idée de raconter ça?
Au moment où nous étions en croisière, je me suis dit, il faut que ça soit un bouquin.
When he was taking the course,
lorsqu'il suivait mes cours,
I never thought I was going to write a book.
Je n'avais jamais pensé à écrire un livre. C'était très amusant, il y a tous ces petits trucs drôles qui se produisaient. Je pensais que ça pourrait faire un article dans un magazine. Mais vous savez, les choses qui se sont produites pendant cette croisière étaient tellement extraordinaires, tellement odysséennes et mélangées au fait qu'on n'est jamais arrivé à Ithaque. Ça s'est développé d'une façon très littéraire. Et parce qu'il y a tellement de poèmes extraordinaires sur Ulysse, sur le fait qu'il ne voulait pas vraiment retourner à Ithaque, qu'il voulait rester en route. Il y a un moment de la croisière, on a rencontré un homme âgé qui avait une histoire de guerre à raconter. Et parler aux personnes âgées sur la guerre, c'est quelque chose qui m'est très familier. Et cet homme avait véritablement une grande cicatrice, donc sur la cuisse, un point commun avec Ulysse. Et donc je me suis dit, bon, il faut que j'écrive ce livre. Trop beau pour être vrai. Mais c'est pas avant la mort de mon père. Et rétrospectivement, je pensais à notre année ensemble, qui a été tellement mise en forme par l'Odyssée, je me suis dit, bon, allez, maintenant je connais la forme du livre.
Votre chant préféré, si je ne m'abuse, est le chant 16, Daniel Mendelssohn, de l'Odyssée, où précisément Ulysse se fait reconnaître par Télémaque. Simplement, Télémaque n'y arrive pas seul. D'ailleurs, les êtres humains n'arrivent jamais aux choses seuls. Il leur faut l'aide des dieux et souvent d'Athéna, qui est constamment présente. Et Athéna touche Ulysse avec une baguette d'or et transforme totalement Ulysse, qui a une riche tunique, un manteau superbe. Et là, Télémaque le reconnaît, se dit, c'est pas le clochard que j'avais vu arriver. Ça énervait beaucoup votre père, qui était athée, de voir à quel point les dieux étaient envahissants aussi dans ce poème. Est-ce que c'est pas quand même une autre leçon, en fait, de cette littérature antique, de nous déculpabiliser, au fond, par rapport aux dieux? Ils sont tellement grossiers, ils sont tellement pesants, qu'au fond, c'est comme s'ils n'existaient pas. Ils sont presque kitsch, les dieux, dans le monde homérique.
Well, I'm not sure I would say kitsch, but they are very heavy presences.
Kitsch, mais ils avaient des présences pesantes.
It's interesting because they're much heavier presences in the Iliad, where all of the gods.
Leur présence est beaucoup plus pesante dans l'Iliade, où tous les dieux participent à l'action. Chaque dieu a un soldat favori ou un côté. Ils préfèrent les Troyens ou les Grecs. C'est très très intéressant que le monde de l'Odyssée, par rapport à cette intervention divine, est beaucoup plus restreint. Il n'y a que deux dieux qui comptent dans ce passage-là. Il y a Athéna, qui est la protectrice d'Ulysse, et Poséidon, le dieu de la mer, qui agite la mer contre le retour d'Ulysse et qui crée toutes ces tempêtes et tous ces naufrages qui retardent son retour. Mais de toute manière, dans l'Iliade ou l'Odyssée, mon père haïssait les dieux. Il ne pouvait pas supporter le fait que les dieux soient tellement présents. Et un de ses grands syllogismes, c'était que si le héros reçoit l'aide des dieux, et donc ipso facto, il ne peut pas être un héros. Parce que mon père, tel qu'il était, pour être un héros signifie qu'on fait tout par soi-même. Et moi, j'étais très touché par ça. Il ne pouvait pas voir à quel point un héros devait recevoir de l'aide, ce qui en disait plus sur lui que ça en disait sur le texte de l'Odyssée.
Précisément, on a tellement fait l'éloge d'Homère qu'on peut quand même le tacler un tout petit peu. Ce côté Deus ex machina, c'est pas le plus génial, justement. Là, c'est à l'écrivain que je pose la question. On parlait d'Aristote tout à l'heure, le fait de ne jamais ennuyer le lecteur. S'il faut que Athéna arrive avec sa baguette d'or pour faire comprendre au pauvre Télémaque que c'est un petit peu facile, ça, non?
Yes, it's artificial, but
oui,
I think
c'est artificiel, mais l'artificialité de ce moment désigne une vérité psychologique. Peut-être que c'est une artificialité psychologiquement, c'est extrêmement puissant. Comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qu'on n'a jamais connu? Parce qu'il faut se souvenir qu'à ce moment de l'action, Télémaque à 20 ans, mais c'était un bébé lorsque Ulysse est parti pour la guerre de Troie.
Donc,
il n'y a pas de façon organique de reconnaître cette personne. Quelqu'un passe la porte et dit « Salut, je suis papa ». Vous avez besoin d'un petit peu d'inspiration divine pour ça. Je crois que psychologiquement, c'est extrêmement vrai. Et en fait, Ulysse dit quelque chose à ce moment-là qui est un petit peu énervant, qui est « Personne d'autre ne viendra ici » disant que « Je suis ton père ». Et donc, tu peux au moins me prendre moi pour ton père. Et donc, il n'est jamais sûr qu'il est vraiment la personne qu'il dit être.
Je voudrais qu'on termine, Daniel Mendelsohn, avec un petit mot sur l'Amérique. Ce livre, c'est aussi un hymne à la transmission, à une longue lignée d'ailleurs depuis. Vous vous amusez à remonter de l'Antiquité, on passe par Byzance à aujourd'hui. Vous enseignez ces textes, l'Iliade, l'Odyssée. Vous êtes aussi critique, on l'a dit. Vous vous servez de l'Antiquité pour parler de production contemporaine. Pour vous, c'est un instrument de vérité. Cette Amérique qu'on voit émerger, l'Amérique de Trump, est-ce qu'elle vous inquiète du point de vue de cette continuité humaniste, le fait qu'il y ait eu, il y a des universités qui sont de véritables paradis pour les philologues, pour ceux qui se passionnent pour l'Antiquité. Est-ce que ça continue à tenir? En France, on a eu ces débats-là, ça a l'air de s'arranger un petit peu. Est-ce que l'Amérique tient encore le coup sur ce plan-là, de la transmission des grands textes?
I think the way to answer that is...
Je crois que la meilleure manière de répondre à votre question
in an Odysseus-like way,
est d'une manière à la Odyssée, à la Homère. Avec différents aspects. D'un côté, oui, il y a une menace réelle posée par le régime. Sur le plan intellectuel, notre ministre de l'Éducation est un imbécile qui tente de démonter totalement notre système éducatif. Et ça se traduit par de l'argent, bien entendu. Le budget sera retiré des humanités. Les conservateurs tentent de détruire le programme d'enseignement des humanités. Et donc, de façon concrète, oui, je pense qu'il faut s'inquiéter. Mais d'un autre côté, je peux vous dire que, en tant que classiciste, on est passé par des moments très durs par le passé. Le Moyen-Âge, c'était pas facile.
Et,
comme je l'ai dit au départ, ces textes sont tellement fondamentaux, tellement attirants, tellement merveilleux. Je n'ai aucun doute, ils continueront d'être transmis. Je suis plus optimiste que je ne le suis sur beaucoup d'autres choses en tant qu'Américain. Et je pense que même si les choses sont réduites ou se contractent, ça survivra. Aucun doute dans mon esprit.
Il y aura donc toujours cette belle homo frosune dont vous parlez, cette intelligence, cette communauté d'âme entre les gens qui aiment ces textes.
Yes, I think there will always be that quality.
Il y aura toujours cette qualité, cet état d'esprit qui lie les gens entre eux, ceux qui aiment ces textes. Peut-être qu'il y en aura très peu, mais ils survivront. Et puis il y aura un autre moment où les choses seront meilleures. J'y crois vraiment, parce que je vis l'histoire.
Merci beaucoup, merci Daniel Mendelsohn. Je rappelle les références de ce très très beau livre, Une Odyssée, un père, un fils, une épopée. C'est publié chez Flammarion, c'est un des plus beaux livres vraiment de cet automne. C'est traduit de l'anglais, donc des États-Unis, par Clotilde Meyer et Isabelle Taudière. Et on vous le recommande absolument chaudement. J'en profite pour saluer Michel Zlotowski, qui vous a interprété magnifiquement pendant cette heure. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, avec la complicité de Gabriel Bordron, Anne-Laure Chanel, Jason Taous. Vous pouvez, vous le savez, nous suivre et commenter sur Facebook et tweeter, podcaster pendant un an et réécouter cette émission de manière illimitée sur franceculture.fr. Au revoir, Daniel Mendelsohn.
Merci.